Europe Soir Weekend, Christophe Pallais.
Jusqu'à 19h, ça fait débat avec parmi les thèmes de l'actualité de ce dimanche, les nouveaux rapports de force à l'Assemblée, des rapports parfois houleux, la mesure qui fait débat, le rachat des RTT par les entreprises, et puis Éric Ciotti qui fait un pas de plus vers la présidence des Républicains. Face à face ce soir, Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis, députée insoumise, bonsoir.
Oui.
Et Florence Berthoux, bonsoir.
Bonsoir.
Maire Horizon du 5e arrondissement de la capitale. Alors, on commence par les nouveaux rapports de force de l'Assemblée avec les députés Horizon qui nous ont surpris hier, qui ont voté, c'est votre parti, hein, Florence Berthoux, l'amendement qui alloue 120 millions au département qui verse le RSA.
Certains ont voté, pas tous.
Pas tous, d'accord. Mais ils ont voté, donc, pour ceux qui l'ont fait, avec la gauche, avec les Républicains, avec le Rassemblement National, mais contre l'avis des députés LREM. C'est quoi ? C'est un coup de canif dans le contrat avec la majorité présidentielle ?
D'abord, il faut dire que le lancinant sujet derrière tout ça, c'est quand même la décentralisation et le fait que depuis les premières lois de décentralisation, l'État n'a cessé de faire des transferts et il y a eu les transferts de dépenses, il n'y a pas eu les transferts de ressources. Donc c'est vrai que beaucoup d'élus n'en peuvent mais. Et cette affaire du RSA, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait des années et des années que tous les présidents de département disent on n'en peut plus, il y a de plus en plus d'allocataires, on n'arrive pas, à payer. Donc, cela dit, le dossier va suivre son cours. Il y a quand même le Sénat.
Bien sûr.
Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Moi, je peux vous dire ma position personnelle, puisqu'il n'y a pas une position monolithique. C'est que, autant je peux comprendre qu'on s'insurge contre le fait que quand on transfère des compétences, on ne transfère pas les ressources complémentaires, et le RSA en est un exemple, autant il n'y a pas forcément toujours de la cohérence, c'est-à-dire il faut freiner le quoi qu'il en coûte, parce que c'est les générations futures qui vont payer tout ça, et puis le risque c'est quand même nos impôts aussi. D'ici quelques années, sinon d'ici peu, et puis refaire une dépense supplémentaire qui est une dépense tout à fait conséquente.
Donc si vous aviez été à l'Assemblée, dites-le clairement.
Je n'aurais pas voté.
Vous ne l'auriez pas voté, bon.
Voilà.
Aurélie Trouvé.
Mais c'est ça la démocratie aussi, c'est sur des sujets de fond, on n'est pas... Je pense que c'est ça aussi, on va parler des nouveaux rapports de force, et les nouveaux rapports de force, ça va aussi être ça, c'est-à-dire le débat entre des oppositions
c'est pas que le rapport de force avec
l'opposition, et une majorité, c'est aussi du débat à l'intérieur d'une majorité. Et c'est sans doute aussi une nouvelle manière, mais on y reviendra, de voir peut-être le travail parlementaire très, très en amont.
Oui, on va quand même donner la parole à Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous attendiez, vous, à ce que cette mesure soit votée en séance aux côtés des députés du parti d'Édouard Philippe ?
Nous ne savions pas, en tout cas, mais nous avons été agréablement surpris. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'effectivement, c'est un nouveau cas de décentralisation de compétences sans les moyens nécessaires. Or, les collectivités locales, et Mme Berthoux est bien placée pour le savoir, assurent des services publics essentiels. Et donc, au fur et à mesure, elles sont étranglées parce que financièrement, notamment celles qui ont le moins de moyens, je pense évidemment à la Seine-Saint-Denis en tant que département, parce que on leur file de plus en plus de devoirs finalement. Elles doivent assurer le RSA, elles doivent assurer tout un tas de services publics de base et essentiels sans qu'il y ait les moyens nécessaires. D'ailleurs, le RSA, je pense que ça aurait dû rester une compétence nationale parce que ça doit être égal pour tout le monde et tout le monde doit pouvoir s'être assuré de recevoir le RSA. Et juste une remarque sur le quoi qu'il en coûte. En réalité, on a proposé pendant tout ce projet de loi de finances rectificatif, nous avons proposé de nouvelles recettes publiques au gouvernement, en l'occurrence une taxe sur les surprofits réalisés par des multinationales comme Total ou comme des grands transporteurs maritimes qui font des résultats hallucinants, des super profits grâce à l'inflation, grâce à la hausse des prix. Donc pendant que certains sont étranglés quand ils reçoivent leur facture de gaz ou d'électricité, d'autres se font des super profits. Plein de pays européens ont décidé
Mais des super profits qui sont faits parfois à l'étranger.
Nous avons fait une simulation en taxant Total à hauteur de 15 à 20%, comme c'est fait en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, dans le secteur de l'énergie, nous aurions pu récupérer plusieurs milliards d'euros.
Ça a été
refusé, on l'a perdu à quelques voix près malheureusement, mais là pour moi c'était des recettes publiques qui permettaient d'assurer après une dotation meilleure aux départements, aux communes pour assurer le relèvement à minima, qui d'ailleurs n'est pas suffisant, du RSA ou un certain nombre, ou par exemple les rémunérations des fonctionnaires territoriaux.
Florence Berthou.
Ouais, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Je comprends qu'on soit choqué par le fait que des très gros groupes fassent des super profits et qu'il les fait en l'espèce, c'est une réalité. Mais il y a un autre sujet qui est quand même celui de la défense du pouvoir d'achat. Donc, il faut être un peu cohérent. Est-ce que si on va taxer les profits de Total, c'est-à-dire ce qui reste des profits qui sont assujettés, qui sont assujettés à l'impôt en France, c'est-à-dire quand même infinitésimal. Mais c'est vrai que ça peut rapporter un peu d'argent. Est-ce que ça va être mieux pour les Françaises et les Français, et en particulier ceux qui doivent se déplacer, payer plein pot le carburant?
Mais aurait-il accepté de baisser les prix
à la réalité,
pompe,
c'est que quand même, aujourd'hui, et c'est pas rien, il faudra qu'ils aillent plus loin. Il faudra qu'ils aillent plus loin. Parce qu'il y a derrière un PLF. Il faudra que ces grands groupes aillent plus loin sur les efforts consentis, et notamment, à mon avis, que Total aille encore plus loin sur les efforts consentis à la pompe. Parce que c'est quand même pas rien ce qui a été obtenu. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce que le gouvernement a fait voter à l'Assemblée nationale, c'est aussi au terme d'un dialogue, puisque on est allé plus loin, et tant mieux, que ce qui était initialement prévu sur le rabais du prix à la pompe. Ceux qui font 30, 40, je connais des gens en province qui font 100 km tous les jours, voire 150 pour aller travailler, c'est quelque chose qui est tout à fait considérable pour le pouvoir d'achat.
Alors attention, parce que ce qu'a consenti Total, d'abord c'est que pour Total, il y a d'autres distributeurs, donc ça va ne concerner qu'une partie.
Ça peut avoir un effet vertueux.
Alors peut-être, mais par ailleurs ça rapporte beaucoup moins au Total.
Et puis avec la concurrence, ils ont peut-être plutôt intérêt les concurrents
Total,
à
Total, ça lui coûtera 500 millions d'euros. Nous, ce que nous avions prévu, la taxe, ça aurait rapporté 10 milliards d'euros. C'est pour
ça
d'ailleurs que l'Italie, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie le font, le FMI, le Fonds monétaire international, Bruxelles disent qu'il faut une telle taxe parce que les profits sont mirobolants. Évidemment, puisqu'il y a la hausse des prix, alors ils profitent de la hausse des prix. Donc il était logique de mettre en place une telle taxe. Donc ça n'a pas été accepté. Moi, vraiment, ça me désole parce que ça aurait pu permettre, par exemple, je donne un exemple très précis, d'augmenter les aides au logement. Aujourd'hui, les aides au logement n'augmentent que de 3%. C'est ridicule à côté de la hausse des prix et notamment des loyers qui va être augmentée de 3%. Mais vous imaginez bien qu'une hausse d'APL, c'est beaucoup moins de 3% qu'une hausse des loyers de 3%. Donc ça veut dire que les gens vont subir, en plus de la hausse des prix alimentaires et de l'énergie, une hausse des dépenses pour le logement qui ne sera pas compensée par la hausse des aides au logement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ces recettes publiques que nous n'avons pas parce que cette taxe n'a pas été acceptée, eh bien ça va manquer pour le reste, pour les gens qui sont vraiment dans la panade.
Bon, en tout cas, il y a une grosse divergence de chiffres
entre
vous. Oui,
parce que je trouve que c'est totalement réducteur.
Jamais
ça n'aurait pas rapporté 10 milliards d'euros. Enfin bon, ça, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres-là. Non,
c'est ce que ça rapporte en Italie.
Ça n'aurait pas. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Je rappelle que c'est les impôts, c'est sur les bénéfices que vous faites dans un pays. Et ce n'est pas le système des vases communicants. Le pouvoir d'achat est un sujet extrêmement sérieux. Il ne faut pas donner aux Françaises et aux Français le sentiment que parce qu'on va prendre, encore une fois, à des très très gros qui ont fait des profits et il va falloir qu'ils mettent la main à la poche, mais ce n'est pas parce que là, on va les surtaxer que ça va arriver dans la poche des Français. C'est faux. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille encore plus loin sur les mesures qui sont faites. Peut-être qu'on en parlera parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que l'APL, il y a la AAH, cette déconjugalisation, par exemple, qui a été attendue depuis des années et des années et des années.
Qui a été enfin
adoptée. Il y a la valorisation des minima sociaux, il y a la revalorisation des retraites, des pensions d'invalidité. On ne peut pas dire que tout ça... la revalorisation du SMIC sur un an, c'est 8,7%. Pour le moment, l'inflation, c'est 5,8%. Voilà. Alors, c'est encore une fois, des gens souffrent, il faut les aider, mais il ne faut pas laisser imaginer, d'une manière un petit peu populiste, que parce que on va taper sur tel ou tel, ça va arriver dans la poche des contribuables. Je ne crois pas, hélas.
En revanche, Florence Berthou, vous êtes d'accord au sein d'Horizon à voter avec la NUPES ou avec le Rassemblement National si ça se représente, si d'autres occasions se représentent.
Mais je crois que c'est pas l'affaire. Je pense encore une fois que il y a un éclatement des oppositions et à côté il y a, comme l'a dit très bien d'ailleurs la Première ministre, il y a une majorité et il y a des majorités de projets. Et ces majorités de projets, elles ne sont pas figées.
Et ce ne sont pas les petits soldats.
Elles sont pas figées, ça dépend du contenu. Le côté positif, peut-être, de tout ça, c'est que, on l'évoquait d'ailleurs hors micro, peut-être qu'on va apprendre aussi à travailler beaucoup plus en amont. Et en amont, ça veut dire que des députés de tous bords qui sont chevronnés sur des sujets. Madame était était prof à l'agro, qui était dans le 5e arrondissement.
Des voisines, finalement.
Forcément. Non, mais chacun peut amener, avec ses compétences, des éclairages extrêmement intelligents sur des sujets. Alors après, on ne sera peut-être pas d'accord, mais je pense que ce travail-là, il doit être impérativement fait en amont. C'est et pas qu'entre le Conseil des ministres, pardonnez-moi, et le passage dans une assemblée.
La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui le déclare ce matin dans Le Parisien. Ça permettra peut-être de mettre fin à ces florilèges de colibés, d'insultes, de propos assez violents qu'on entend. Je vous propose d'écouter, on a fait une petite sélection avec Capucine Patouillet. Écoutez-le, puis on en reparle juste après.
On connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
J'aimerais savoir dans cette salle, je ne sais pas si c'est une salle, dans un hémicycle, qui a déjà touché 800 euros, 1000 euros, personne, pas moi, je ne vous ai pas dit pas un jour.
Vous avez du talent, monsieur le ministre, et même je dirais que vous êtes le meilleur des menteurs. Et aujourd'hui, ce qu'on a sur les bancs du gouvernement, c'est le bal des faux culs.
Arrête Ruffin, sinon c'est moi qui vais cogner. Ce sont des propos du député UDI Philippe Vigier en réponse à François Ruffin. Bon, après, le député UDI s'est excusé à préciser qu'il ne voulait pas cogner physiquement, mais verbalement. Tous ces propos, c'est quand même d'une violence insensée, Florence Berthoud. Vous qui voyez ça de l'extérieur.
Ben, je vois ça de l'extérieur. Alors, sans doute que Madame la députée, elle peut en parler vraiment de l'intérieur et voir ce qu'elle ressent aussi, notamment.
Mais j'avais envie d'entendre votre avis.
Notamment comme
aussi.
Femme, moi, il s'avère que pendant des années, j'ai travaillé avec le Parlement parce que j'étais membre de cabinet ministériel et notamment directrice du cabinet du ministre des Relations avec le Parlement. Mmh. C'est vrai que quand on démarre avec de nouvelles majorités, il y a toujours eu une espèce de chaudron. Mais je suis extrêmement choquée, non pas par l'âpreté des débats, mais les mots qui sont utilisés, des noms d'oiseaux. Et alors, il y a un effet démultiplicateur, parce que maintenant, on se filme, on fait des selfies, et ça part sur les réseaux. Donc, comment on peut demander, par exemple, à des enfants, à des adolescents, à des jeunes adultes, d'écouter l'autre et bien de se comporter quand on voit ce qui ressemble à un peu du cirque, même si j'imagine qu'il y a des moments de débat intéressants, mais il y a aussi ça. Et je pense que ça nuit à la démocratie.
C'est vrai que le bal des faux culs de François Ruffin dans ce cours exprès, c'est pas très élégant.
En fait, moi, il y a d'abord deux points là-dessus. Le premier point, c'est que je crois que quand ça en reste aux idées politiques, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, nous revivifions un débat parlementaire. Il y a eu 5 ans de monarchie présidentielle, j'ai envie de dire, avec une chambre d'enregistrement qui s'appelait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a des vrais débats et il y a une minorité présidentielle et donc il y a des besoins d'alliance et il y a des vrais débats sur le fond, tant mieux. Par exemple, c'est vrai que pendant toute la loi pouvoir d'achat, nous avons soutenu la hausse des salaires réels et pas de subterfuge via une prime Macron, de l'intéressement, etc. Nous voulions vraiment une hausse des salaires réels, des retraites, etc., au moins au niveau de la hausse des prix. Ça n'est pas la position du reste de l'hémicycle, c'était la position de la NUPES. Nous voulons aussi que les grands profiteurs de crise soient taxés, et je suis désolée, c'est absolument pas populiste, hein. Je vous l'avais rappelé, j'étais prof d'économie pendant 20 ans, jusqu'à il y a trois semaines. Je veux dire que c'est pas populiste, c'est-à-dire qu'à un moment donné...
Mais là, on était sur l'âpreté des débats.
D'ailleurs, Bruno Le Maire le dit lui-même, c'est-à-dire, il dit, il manque des recettes publiques, on peut pas augmenter trop le RSA, on peut pas augmenter trop les aides au logement. Donc là, on lui proposait des recettes publiques à travers la taxe. Ça n'est pas accepté. Donc, il y a quelque part de la droite, enfin de la Macronie à l'extrême droite, la même position qui cette position, on ne hausse pas les salaires réels et on ne fait pas contribuer les plus riches et multinationales. Enfin, donc là, il y a un vrai clivage et c'est fort. Par contre, je dois...
augmenter.
Deuxième point qui, pour moi, est important, et vous l'avez souligné, et je crois que là, avec Mme Berthoud, il me semble, nous pouvons partager cette idée. Pour moi, il y a des problèmes autres qui sont des problèmes notamment de domination masculine, je le dis bien, parce que je, moi, ça fait 20 ans que je suis prof, 20 ans que, par ailleurs, j'étais responsable d'attaque, de mouvements sociaux, j'étais habituée à parler en public, mais là, je vous avoue que dans l'hémicycle, je trouve ça très violent envers les femmes en particulier. Il y a des codes masculins, je pense, dans un hémicycle qui est dominé par les hommes depuis très très longtemps, historiquement. Et donc moi, par exemple, on me reproche depuis plusieurs jours d'avoir, par exemple, une voix trop haute, un son de voix trop haut. Mmh. Alors je reçois des messages pendant l'hémicycle, ils me font des gestes, alors pas qu'à moi, hein, Sandrine Rousseau, on reproche à Raquel Garrido de se réajuster sa robe pendant la séance, on reproche à une collègue d'être trop émotif, et c'est violent. C'est violent.
Il y a aussi cette culture du buzz dont parlait Florence Berthoud il y a quelques instants.
Là, je vous raconte quelque chose moi, que je vis et qui pour moi est très grave, je vous le dis, parce qu'il y a une tentative aussi de nous dominer à travers les codes masculins. Et je le dis, ça c'est moi, c'est ce qui me frappe le plus. La violence pour moi n'est pas la violence du buzz, la violence elle est celle de rapports de domination qui tentent de se poursuivre dans cet hémicycle. Et là, c'est important entre femmes, j'ai envie de dire de tout parti, d'être fière, forte et solidaire quelque part, parce qu'il faut que ça change. On n'est plus au XXe siècle. Les femmes sont les égales des hommes en politique, doivent l'être, et ça n'est pas aux hommes de dicter leur code.
En même temps, l'Assemblée est présidée par une femme, et je me fais un peu l'avocat du diable, hein, et la vice-présidente.
Cela dit, il n'y a jamais eu.
Était aussi une femme.
Et c'est assez tant paradoxal
mieux.
Parce que.
Tant mieux. Mais ça ne résout pas tout.
Ça n'a rien changé pour l'instant.
Ça ne résout pas tout.
Ce que vous dénoncez est absolument intolérable. C'est hélas, ça date pas d'aujourd'hui. Hélas, nous sommes un certain nombre à en avoir fait les frais et parfois à continuer à en faire les frais.
Bon, c'est pas le cas ce soir, vous avez vu. Hein.
Mais non, parce que je pense qu'on peut débattre, ne pas être d'accord sur des choses importantes et on peut quand même se respecter. Mais je redis que je pense que ce à quoi nous assistons par moment donne le sentiment que c'est une parodie de démocratie. Mmh. Il faut
on a peur que ça
un minimum
vire
de
à Taïwan
tenue,
avec des affrontements
bien sûr.
Physiques. Quoi.
D'ailleurs, on le voit dans le verbe. Certains se laissent emporter. J'aime bien Vigier, mais malgré lui, il va dire cogner. Parce que, effectivement, quand vous êtes sous pression, ça n'excuse rien. Mais quand on est sous pression, qu'on s'invective, vous savez très bien que la violence commence 9 fois sur 10 par la violence verbale.
Bien sûr, par les mots.
Donc, dès qu'on va s'injurier avec des noms d'oiseaux, et je dois dire que depuis le début de cette législature, on a hélas, j'allais dire, on n'a pas été déçus, on a plutôt été très déçus. Je crois vraiment qu'à moyen terme, et a fortiori à long terme, ça desservira leurs auteurs, de quels que soient les bancs. Hein,
alors,
sur
en même temps, on a fait des recherches dans les archives d'Europe 1.
Ah, vous pouvez être un florilège.
Pas du tout. Ah. On va vous faire écouter ce qui s'était passé
pas nouveau, hein.
En décembre 2017. Et effectivement, c'était déjà le cas. Alors. Écoutez.
Je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement, car il ne sera plus possible et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir. Tout à l'heure, ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort.
Alors, vous l'avez reconnu, hein, c'était François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale à l'époque.
Raison.
C'était 6 mois après le début de la législature, oui.
Oui.
C'était le meilleur moyen.
Les séances de questions d'actualité, en plus, c'est quelque chose qui a déjà un côté un peu arène. Hein. Deux minutes et demie pour poser la question, 2 minutes et demie pour répondre. On va déjà à l'essentiel. Donc, on peut dire que sur une pensée qui a besoin de se développer, il va falloir qu'on aille à l'essentiel. Alors, si en plus... on couvre avec des invectives, des gestes.
Ça ralentit les débats.
Mais surtout, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et la démocratie, c'est pas ça.
Alors, c'est vrai que les anglo-saxons font autrement, c'est-à-dire qu'ils s'adressent plus au speaker. Et quand on cite un autre député, on l'appelle surtout pas nommément, mais on l'appelle par sa fonction. Madame la députée de Seine-Saint-Denis, par exemple.
Oui, alors d'abord, quand on prend la parole, on dit « Madame la Présidente, chers collègues ». Moi, je commence toujours comme ça, bon. Mais ce n'est pas le principal quand même, parce que je ne voudrais pas que... Je pense qu'au contraire, ça remet l'Assemblée nationale dans le débat politique. Moi, je trouve ça plutôt positif, au contraire.
Parce c'est violent,
d'ailleurs,
quand même.
Des gens invectifs.
Non, non, ce n'est pas ça. Je dis, il y a des côtés positifs dans ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un vrai débat politique. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a des vrais débats, que tout n'est pas joué. Contrairement aux 5 ans précédents où le gouvernement présentait une loi, ça passait comme une lettre à la poste. Là, tout n'est pas joué.
Alors, il y a aussi 302 députés qui sont élus pour la première fois sur 589. Ça peut expliquer ces débordements.
Qui découvrent un peu le métier.
Mais moi, je trouve ça génial parce que alors, nous, à la NUPES, voilà, il y a une Rachel Keke que vous avez entendue, qui est femme de ménage, une ouvrière agricole, etc., qui viennent aussi avec leur expérience. D'ailleurs, on nous a reproché
Éric Ciotti.
Éric Ciotti nous dit « Oh, vous devriez porter une cravate, les gars. » Mais enfin, ça me fait bien rire parce que vous savez que dans le règlement, il faut qu'on ait une tenue de ville. Et bien, la tenue qui ressemble aux gens, c'est pas de porter forcément un costard et une cravate. Et c'est vrai qu'on vient aussi avec ce qu'on a porté pendant des dizaines d'années. Moi, j'étais prof jusqu'à il y a 3 semaines. Et on vient avec notre expérience.
Oui, mais vous avez une charmante tenue de ville quand vous êtes à l'Assemblée.
Bah ça dépend. Mais on n'est pas tous dans la politique depuis 20 ans. Donc, on vient aussi sans forcément les codes absolus de la politique. Et tant mieux, c'est de la fraîcheur. Et les gens ont besoin de ça aussi, de se reconnaître dans les lieux politiques.
Non, mais, cravate ou pas cravate, Florence Berthaud ?
Moi, je pense que c'est pas le vrai débat.
On est d'accord, c'est pour ça qu'on l'a quasiment pas traité.
Monsieur Ciotti fait ça aussi parce qu'il il va y avoir des élections prochainement au Parlement. Non, en revanche, il y a un vrai sujet derrière. Hein.
C'est la tenue. Parce qu'on va devoir
en... La tenue, c'est quoi la tenue ? La tenue, c'est un certain comportement. Voilà. C'est un certain comportement, une forme de respect.
La cravate est dans
ça,
la tête.
Vous avez raison, le respect est important.
Voilà. Un grand merci à toutes les deux d'avoir pris part à ce débat. Merci Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Et merci à Florence Berthoud, maire Horizon du 5e arrondissement de la capitale. Merci à toutes les deux d'avoir enrichi ce débat. À suivre dans un instant sur Europe 1, le journal de 19h. Et à 19h15, émission spéciale Tour de France avec l'arrivée du Tour en direct et le bilan de la Grande Boucle jusqu'à 22h sur Europe 1. Les coureurs ne sont plus qu'à 40 km de la ligne d'arrivée. À tout de suite.